Allez au chapitre 1 de l'Épître de Romains. Chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Pendant et lorsque vous aurez trouvé, eh bien, simplement regarder, remettre vos yeux sur en avant.
Bon. Romains chapitre 1. Alors, cette année, pour éviter d'aller trop vite dans mes messages, je vais essayer de faire le plus possible les messages en deux parties, dont celui de ce matin qui sera en deux parties. Et le titre du message ce matin, c'est « Le livre qui a transformé le monde ». Le livre qui a transformé le monde. Nous savons que le contenu de certains livres peuvent influencer la vie de quelqu'un, et je pense ici à certains livres qui ont transformé le monde. Je pense à un grand malade qui s'appelle Adolf Hitler, qui a écrit un livre, Mein Kampf, dans lequel il décrivait le système de pensée nazi qui a entraîné le monde dans une deuxième guerre mondiale, avec toutes les atrocités que l'on connaît, dont l'Holocauste de 6 millions de Juifs exécutés dans des camps de la mort. Hitler avait lu des livres. Il avait lu, entre autres, un livre écrit par Friedrich Nietzsche, Ainsi parle Zarathoustra, dont l'enjeu visait à amener l'homme à établir ses propres valeurs et à agir en fonction de celui-ci. Et c'est intéressant parce qu'il y a des livres qui sont écrits dans le monde et on sous-estime finalement la capacité de ces livres à changer des mentalités, à changer des gens, et non pas à les amener à devenir meilleurs, mais à devenir pires que ce qu'ils étaient. Et ce livre, entre autres, eh bien, Nietzsche, on sait que Nietzsche était un grand athée, mais dans ce livre, il cherchait, il visait finalement ce que l'homme puisse établir ses propres valeurs et agir en fonction de celles-ci, et non plus à partir des critères de Dieu. Et de Nietzsche, Hitler a appris à détester la démocratie, parce qu'elle encourageait la médiocrité. Hitler admirait l'esprit guerrier de Nietzsche et son appel à la violence à des fins politiques. La brutalité est respectable. Le terrorisme est absolument indispensable dans tous les cas où il s'agit de la fondation d'un nouveau pouvoir, disait-il. Nietzsche était un pervers et un athée qui a popularisé l'idée que Dieu était mort. Et si Dieu est mort, ben moi, j'ai pas de compte à rendre à personne. C'est ça l'idée qui se cache derrière ça. Et si Dieu est mort, eh bien, il n'y a plus de valeur en dehors de moi. C'est moi qui définis mes valeurs. Et finalement, on se demande où Hitler tenait toute sa philosophie. Mais il était fort influencé, entre autres, par Marx, mais aussi par Nietzsche. D'autres livres ont changé la face du monde. Karl Marx a écrit Le Capital et son manifeste sur le communisme a réduit non seulement à l'esclavage des millions de personnes, mais aussi, il a aussi provoqué la mort de millions de gens à cause des idées perverses qui se trouvaient dans ce livre. Charles Darwin a écrit un livre, L'origine des espèces. Et dans ce livre, il présente ses observations et conclut à une évolution naturelle des espèces. Les individus qui ont hérité de caractères bien adaptés à leur milieu, dit-il, ont tendance à mieux se reproduire que leurs congénères et à prendre le pas sur eux. En quelques générations, une espèce peut ainsi se transformer jusqu'à donner naissance à une nouvelle espèce. L'être humain n'a pas été créé par Dieu, mais il est plus probable qu'il soit issu de deux singes. Le but évident qui se cache derrière cette théorie, c'est nier que l'homme a été créé par un Dieu tout-puissant. C'est vraiment ça qui se cache derrière cette philosophie. Maintenant, moi, je ne pense pas que mon ancêtre était un singe et que mon ancêtre mangeait des bananes et qu'il se promenait d'une branche à l'autre. En tant que chrétien, je crois sincèrement que j'ai été créé par le Seigneur. Et que le Seigneur, que le premier homme a été créé à partir des mains du Seigneur, que Dieu a façonné l'homme à son image, à sa ressemblance. Et je trouve que l'idée des mains, Dieu qui prend de la poussière du sol pour fabriquer un homme, moi je trouve que c'est affectueux, c'est quelque chose, on est vraiment particulier dans toute la création. Dieu a créé à partir de sa bouche, mais pour l'homme, Dieu s'est retroussé les manches et là, il a fabriqué, il a créé vraiment avec ses mains. C'est quelque chose de magnifique. Les livres exercent donc une puissance énorme sur les gens, mais il n'y a aucun livre qui a autant influencé ou eu autant d'impact dans le monde que le livre que nous allons lire dans quelques instants, et c'est l'Épître aux Romains qui a été appelé la constitution du christianisme, c'est-à-dire le fondement de notre foi. Le poète anglais Samuel Taylor Coleridge a dit concernant cette épître que c'est la plus grande œuvre de littérature jamais écrite. C'est une épître qui a eu un impact incroyable dans le cœur de beaucoup d'hommes. On n'a qu'à penser à ce moine catholique romain qui s'appelait Martin Luther, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour être en règle avec Dieu. Il accomplissait des œuvres, il jeûnait, il priait, Puis un jour, il a décidé de se rendre à Rome pour faire un pèlerinage. Et sur place, il découvrit ce qu'on appelle en italien la Santa Scala, c'est-à-dire le Saint-Escalier, qui, selon une tradition médiévale, serait le prétoire de Jérusalem que Jésus aurait gravi juste avant d'être jugé par Ponce Pilate. Et sur les marches, pour en rajouter, pour alimenter cette légende, eh bien, sur les marches de cet escalier, des gouttes de sang appartenant à Jésus seraient censées y être tombées. Donc, vous imaginez les gens qui montent ces escaliers-là à genoux, hein, parce que les pèlerins gravissent les marches à genoux pour revivre la passion du Christ, mais aussi pour obtenir les faveurs, espérant ainsi qu'ils pourraient peut-être expier leurs péchés. Donc, des Santa Scala, il en existe un peu partout. Si jamais vous allez à Montréal, il y a l'oratoire Saint-Joseph. Il doit avoir à peu près 300 marches. Donc, la Scala, la Santa Scala est un peu plus grande au Québec. Et les gens qui fassent moins 30, moins 40, vous voyez les gens qui montent finalement marche par marche en récitant un « Je vous salue Marie ». Alors, et qui montent jusqu'en haut, finalement, en espérant que Dieu ait pardonné leurs péchés. Gagner son ciel. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et Et Martin Luther, qui était un dominicain, qui enseignait à la faculté de théologie, était un homme qui a vraiment une soif de son âme. Il sentait un vide incroyable. Il sentait que la religion ne comblait pas ce vide. Et Martin Luther, quand il est allé à Rome, eh bien, lui aussi a monté la Santa Scala en récitant des prières pour sauver son âme. Mais lorsqu'il est arrivé à la dernière marche du Saint-Escalier, il a réalisé qu'il n'était pas plus près de Dieu que lorsqu'il se trouvait sur la première marche. Et Martin Luther commença à méditer alors l'Épître aux Romains, et c'est alors qu'une lumière éclaira son cœur en souffrance lorsqu'il lut Romains chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi ». Et vous savez, on en a comme on veut des Bibles, hein? Mais Martin Luther, qui était professeur de théologie, eh bien, la seule Bible à laquelle il avait accès, c'était une Bible à laquelle on avait percé un trou, on avait posé une chaîne, on l'avait vissée dans la bibliothèque afin que personne ne puisse sortir de la bibliothèque pour lire la Bible. Et il a commencé à lire la Bible dans cette bibliothèque qui était enchaînée. Il a commencé à lire l'Épître aux Romains. Et là, eh bien, il a compris que ce n'était ni par ses bonnes œuvres, ni à travers sa religion, ni par des bonnes intentions qu'il était sauvé, mais que c'était par grâce, en mettant sa foi dans l'œuvre que Jésus avait accomplie pour lui. Pour lui sur la croix. Et en 1517, Martin Luther, et on va fêter le 500e anniversaire bientôt, Martin Luther naissait de nouveau. La réforme protestante vit le jour et changea la face du monde. Pensons aux zèles religieux de John Wesley, qui le poussa à 32 ans à partir comme missionnaire en Amérique pour tenter de convertir les colons et les Indiens. N'était-il pas croyant? N'était-il pas chrétien? Lui, cet anglican qui récitait le credo avec conviction, qui communiait à toutes les semaines et parfois tous les jours, qui donnait le peu d'argent qu'il avait aux pauvres et qui visitait les malades et les prisonniers. Sur le bateau qui va le conduire en Amérique, il fit la connaissance de 23 frères moraves qui possédaient une sérénité que lui n'avait pas, et il va rester marqué par cette rencontre. Et 2 ans plus tard, sur le bateau qui va le ramener en Angleterre, il réalisa qu'il n'était pas converti. Il dit, « Il y a presque 2 ans et 4 mois que j'ai laissé ma terre natale pour aller prêcher le Christ aux Indiens de Géorgie. Mais qu'ai-je découvert? La chose à laquelle je m'attendais le moins. Moi qui suis venu en Amérique pour convertir les autres, je ne me suis jamais converti à Christ. » Il réalisa que son cœur était vide, qu'il avait alors la foi d'un serviteur, mais non celle d'un fils. Il avait la foi d'un serviteur, mais non celle d'un fils, et qu'il avait peur de mourir. « La foi qui me manque, a-t-il confessé, est une confiance assurée en Dieu que par les mérites de Christ, mes péchés sont pardonnés et que je suis réconcilié avec Dieu le Père. J'ai besoin de cette foi que nul ne peut avoir sans savoir qu'il la possède. » C'est intéressant ce qu'il dit, hein? « J'ai besoin d'avoir cette foi que nul ne peut avoir sans savoir qu'il la possède. » Il ne pouvait jusque-là comprendre que la foi puisse être une opération subite de Dieu en nous, que la conversion puisse être instantanée. Et voici qu'à l'automne 1738, il se rend contre-cœur dans une petite assemblée d'Aldersgate, en Angleterre, où il se convertit, écoutez bien cela, où il se convertit en entendant quelqu'un lire la préface de l'Épître aux Romains de Martin Luther. L'âme de Wesley est libérée, son cœur est rempli de paix et de l'intime assurance que Dieu est puissant pour sauver pleinement ceux qui mettent leur confiance en lui. Et le 24 mai 1738, il écrivit ceci dans son journal. « Je sentais mon cœur se réchauffer étrangement. Je sentais que je faisais confiance au Christ seul pour le salut. Et j'ai reçu l'assurance qu'il avait enlevé mes péchés, même les miens, et qu'il m'a sauvé de la loi du péché et de la mort. » John Wesley était sauvé et un réveil souffla sur l'Angleterre qui changea le cours de l'histoire de ce pays, qui lui épargna une révolution comme celle que les Français ont vécue en France, et qui allait... tout ceci a commencé à partir de l'Épître aux Romains. C'est l'apôtre Paul, alors, qui va écrire cette lettre à l'Église de Rome, où il y avait un petit groupe de croyants, la lettre de l'Épître aux Romains. Son contenu va être une grande source de réconfort pour ces chrétiens qui allaient débranler Rome sur ses propres fondations. Rome, qui était à ce moment-là à son apogée et qui gouvernait le monde. Et si nous prenions simplement le temps d'examiner la table des matières de cette épître, mais d'étudier ensemble l'épître aux Romains, je crois que nous connaîtrions, frères et sœurs, non seulement un réveil en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Pour ma part, l'épître aux Romains, elle résume tout le Nouveau Testament. À l'exception de l'Apocalypse. L'Épître aux Romains, c'est vraiment le fondement de la foi chrétienne. Permettez-moi de vous donner rapidement et brièvement un aperçu de son contenu. Dans les trois premiers chapitres, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec l'Épître aux Romains, Paul aborde le problème du péché. Car tous ont péché, ils sont privés de la présence de Dieu. Il nous dit ce qui ne va pas avec nous, et il met l'accent sur la sainteté de Dieu par rapport à notre péché. Dans les chapitres 4 et 5, Paul nous donne la réponse pour régler notre problème avec le péché, et il nous parle du salut. Il rappelle que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, sont sauvés. Dans les chapitres 6 à 8, il aborde le sujet de la sanctification. Nous savons tous que c'est une chose que d'être sauvé, mais que c'en est une autre de progresser dans notre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Dans les chapitres 1 à 8, Paul traite donc du péché, du salut et de la sanctification. Lorsque vous lisez ensuite les chapitres 9 à 11, vous constatez que ce sont les chapitres qui mettent en lumière que le Dieu souverain régit le monde et les nations et qu'il garde le contrôle sur toutes choses. Et les quatre derniers chapitres, les chapitres 12 à 16, traitent du service à laquelle est appelé le chrétien. Pour résumer, Paul traite du péché, du salut, de la sanctification, de la souveraineté de Dieu et il traite du service dans l'Épître aux Romains. Voilà la table des matières de cette épître. Maintenant, parlons de l'auteur de cette épître aux Romains. Nous savons que Dieu, le Saint-Esprit, en est l'ultime auteur. Mais humainement parlant, qui est l'auteur de l'épître aux Romains? Eh bien, nous trouvons la réponse au verset 1 du chapitre 1. Ce matin, on va se contenter de l'introduction. Je pense que on va peut-être faire l'étude de l'épître aux Romains, je vais voir. On va voir comment Dieu va conduire les choses. Mais je pense que c'est une épître extrêmement importante pour nous pour assurer finalement, ou nous rassurer aussi, sur quel fondement, finalement, on construit notre vie chrétienne. Verset 1, qu'est-ce qu'il dit Paul ici? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, c'est-à-dire séparé, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. J'ai entendu parler d'un pasteur qui avait parmi les personnes qui venaient l'entendre prêcher, un sceptique qui ne l'aimait pas. Un jour, il voulut se moquer de lui. Et à la fin du culte, il lui écrivit une petite note qu'il remit au diacre de l'église en lui disant de ne pas oublier de la donner au pasteur. Alors le diacre, croyant que c'était quelque chose de très urgent, alla trouver immédiatement le pasteur pour lui donner la lettre. Et lorsque celui-ci ouvrit la lettre, il vit, à sa grande surprise, qu'il n'y avait qu'un seul mot écrit en grosses lettres. C'était marqué « idiot ». Alors, le pasteur regarda le diacre et lui dit, « Cher frère, il y a quelque chose d'inhabituel qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai reçu dans ma vie beaucoup de lettres de gens qui avaient oublié de signer leur nom à la fin de leur lettre. Mais c'est la première fois que je reçois une lettre dans laquelle quelqu'un signe son nom en oubliant d'écrire ce qu'il voulait dire. » Chers amis, lorsque nous écrivons une lettre ou un courriel à quelqu'un, nous signons en principe toujours notre nom à la fin de celle-ci. Si j'avais vécu à l'époque de l'apôtre Paul, j'aurais dû commencer par donner mes lettres de référence. C'était la façon de faire à l'époque. Et Paul ici se présente aux chrétiens de Rome en se décrivant lui-même en tant qu'individu et en mentionnant l'œuvre à laquelle il avait été appelé. Verset 1. L'apôtre, il signe son nom ici, l'apôtre Paul, dès le début, pour nous signaler qu'il est l'auteur de cette lettre, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, déjà dès le début, on reçoit une grande leçon de l'apôtre Paul dans la façon dont il se présente ici. Paul était de culture grecque, il était citoyen romain de naissance avec tous les droits et tous les privilèges que cela impliquait. Il était de religion juive, il était hébreu de la tribu de Benjamin, il était pharisien, né de pharisien, il était d'origine de Tarse, ville principale de la province romaine de Cilicie, et à cause de sa célèbre université, Tarse, il y avait seulement Athènes et Alexandrie qui étaient considérés comme étant supérieurs à Tarse en matière de culture et d'éducation. C'est simplement pour vous montrer l'arrière-plan de Paul. Paul, c'était pas n'importe qui. Le célèbre Gamaliel, expert en loi juive et l'un des 7 plus grands rabbins de tous les temps, était le maître religieux de Paul. C'est de lui qu'il a appris à connaître la loi de ses ancêtres, dit-il dans Actes chapitre 22, verset 3. Plus tard, Paul va devenir membre du Sanhédrin, l'Auguste Conseil des 70. Et le prénom de Paul en hébreu, c'était Saül, qui signifiait celui qui est recherché ou demandé. Celui qui est recherché ou demandé. Et Paul, ici, c'est intéressant, il aurait pu se présenter lui-même comme étant Saul, le théologien distingué, sous-entendant quelqu'un qui était très important, quelqu'un qui était très demandé, mais il va utiliser le prénom de Paul. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, le prénom de Paul? Ernest, il était quelques années à pas venir aux études bibliques, et il m'a manqué beaucoup. Hein, oui. Des fois, je n'avais pas toujours la réponse, et qui? Ernest était là pour me soutenir. Paul, ça veut dire minuscule, peu de choses, petit. Et Saul, vous savez ce que ça veut dire, Saül? Saül, c'était un nom, c'était le premier roi d'Israël. C'était celui qui dépassait d'une tête tout le plus grand parmi le peuple d'Israël. C'était Saül, c'était un charnel, c'était un orgueilleux. Et Dieu y a enlevé sa couronne. Mais Paul, petit, minuscule, peu de choses. Paul était capable de dire en prière, « Seigneur, je suis rien devant toi. Je ne suis rien. » Et quand il a prié pour que Dieu lui enlève son écharpe dans la chair, il a accepté que la grâce de Dieu était suffisante pour lui. Ça, c'est le nouveau Paul. Ça, c'était Paul. Oui. Oh, il n'a pas changé son nom pour rien. Voici un homme qui était autrefois fier d'être pharisien, qui se glorifiait de ce qu'il avait accompli, fier de son éducation et de la façon dont il pratiquait sa religion. Et voilà maintenant qu'il signe ses lettres en utilisant le nom de Paul le Petit. Paul le minuscule, Paul le moins que rien. Est-ce qu'on serait capable, en tant que chrétien, d'écrire une lettre à un frère, une sœur, en signant Jacques, de la part de Jacques, le moins que rien, de la part de Jacques, le tout petit, aux yeux de l'Éternel? Aux yeux de l'Éternel? Non, hein? Non, hein? Aux yeux des hommes. Ce Paul qui avait été si arrogant et si audacieux dans le passé n'essayait même plus de se mettre en avant. Il avait rencontré le Seigneur Jésus et cela avait fait de lui une nouvelle créature. Il se considérait maintenant comme étant quelqu'un de minuscule, de tout petit, qui servait un grand Dieu. Voilà pourquoi, quand on se rencontre, on devrait se donner la main. Salut mon frère, Dieu est grand. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Et il n'y a pas de grandes épreuves plus grandes que Dieu. Dieu est grand et Dieu surpasse tout ce qui peut, à nos yeux, être grand. Les grandes épreuves, Dieu est au-dessus de tout ça. Il sait déjà d'avance comment nous en sortir. Il a déjà les solutions. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Voilà. L'époque où il cherchait à montrer qu'il était quelqu'un de très important était terminée. C'était un homme transformé, l'apôtre Paul. Il est bon de se rappeler, frères et sœurs, que nous ne serons jamais trop petits pour que Dieu nous utilise ou que Dieu ne nous utilise pas. Mais que nous pouvons nous sentir trop importants pour que Dieu nous utilise. Il n'y a rien qui vous protège autant du diable que le fait d'être rempli d'un esprit d'humilité. L'auteur des Proverbes dit ceci, « L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. » Et c'est intéressant parce que j'avais ce verset-là en tête ce matin. Et je ne sais pas si vous avez lu, regardez votre agenda, Mais le verset biblique, c'était écrit, « Le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple. Il honore les humbles en les sauvant. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. » Pardon. Mais lorsque Paul s'est présenté alors, une des premières choses que le salut en Jésus-Christ vous apporte, c'est qu'il vous rend humble. La première chose que nous apprenons, c'est que Paul était sauvé ici. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, il dit, « Je suis le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu m'a accordé cette grâce d'annoncer aux non-juifs la bonne nouvelle de la richesse infinie de Christ. » Le grand Paul dit, « Je suis le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. » Je suis le moindre de tous les membres du peuple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, « Je suis en effet le moindre des apôtres, à vrai dire. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et on pourrait très bien faire cette prière, « Je ne mérite pas d'être un chrétien, parce que je me suis tellement moqué de Dieu, j'ai tellement péché contre Dieu, mais dans sa grâce, Dieu m'a sauvé. » Amen. Dans sa grâce, Dieu m'a sauvé. Non seulement Paul était-il sauvé, mais c'était un homme qui avait renoncé à lui-même. Remarquez comment il se présente. Il se présente comme étant un serviteur. Et le mot serviteur en français, souvent, on perd de vue la vraie signification du mot serviteur. Et la façon qu'il se présente en disant qu'il était un serviteur, c'est très significatif pour nous, parce que les dirigeants religieux de l'époque de l'apôtre Paul aimaient occuper la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aimaient être salué dans les places publiques et être appelé par les hommes rabbi. Mais lorsque Paul s'est présenté aux chrétiens de Rome, il n'a pas commencé à se mettre en valeur. Au lieu de cela, il va s'identifier comme étant un simple serviteur. Et il va utiliser, et en utilisant ce terme, il ne voulait pas dire qu'on le forçait contre sa volonté à être au service de quelqu'un, absolument pas. Le mot serviteur qu'il utilise ici, c'est le mot doulos qui veut dire littéralement un esclave. Et Paul dit, « Je suis l'esclave de Jésus », c'est-à-dire « Je suis soumis à mon maître parce que je l'ai décidé ». C'est ça un esclave en Jésus-Christ. C'est ça un esclave. C'est vraiment ça la signification du mot « esclave ». Le mot « esclave » en grec, ça signifie « c'est je suis soumis à mon maître parce que je l'ai décidé ». Est-ce que vous pensez que Dieu va faire de ses enfants des esclaves contre leur volonté? Jamais, hein? Parce que c'est contraire à l'amour de Dieu. Quand on aime, on ne force pas personne à faire le contraire de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut pas faire, quoi. Et le mot esclave ici, souvent on dit doulos, ça veut dire esclave, mais c'est plus qu'esclave. C'est que quelqu'un qui se soumet à son maître parce qu'il en est décidé. Frères et sœurs, la première question qu'on pourrait se poser ce matin, est-ce que vous êtes esclave de Jésus-Christ? Est-ce que depuis que vous êtes chrétien, vous avez décidé de vous soumettre à la volonté du Seigneur Jésus-Christ? C'est ça être un esclave de Jésus-Christ. Et c'est ceux-là que Dieu utilise. Et c'est celles-là que Dieu utilise. Moi, je peux vous dire une chose. Je suis calviniste, mais je n'ai pas les 5 points du calvinisme. Donc, ça n'en fait pas de moi un vrai calviniste. Mais je crois sincèrement qu'il est plus difficile pour quelqu'un de devenir un esclave de Jésus-Christ et d'accepter le salut en Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui ont 30 ans, 40 ans de vie chrétienne qui n'ont jamais, jamais soumis leur volonté à la personne de Jésus-Christ. Et qui sont toujours au même point. Toujours au même point. Et Jésus l'a dit, hein, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ça devrait être le premier enseignement qu'on enseigne à quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens, pendant toute leur vie, qui s'assoient sur leur salut, mais qui ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas jamais pris la décision de se soumettre à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté le salut. Ils ont compris que c'est simplement par la foi qu'on peut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais n'ont jamais leur soumis leur volonté à la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des chrétiens qui ne sont pas nécessairement heureux. Et ils vont compenser ce manque de soumission en faisant des œuvres. Paul, quand vous regardez la religion de Paul, Paul, c'était quelqu'un qui faisait des œuvres d'une manière incroyable. C'était le top. C'était le top des pharisiens de son époque. Paul, il partait avec des papiers, puis il allait faire des œuvres à droite et à gauche, il arrêtait ceux qui ne croyaient pas comme lui, et il faisait des choses pour gagner son ciel. Oui. Mais il n'avait jamais soumis sa volonté à la personne de Jésus-Christ. Il avait soumis sa volonté à la religion qu'il pratiquait. Voilà toute la différence. Et ici, Paul, je peux vous donner, je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si un homme devait de l'argent à quelqu'un qui ne pouvait pas rembourser sa dette, il était vendu comme esclave et il devenait ainsi la propriété de celui à qui il devait de l'argent. Heureusement que ce n'est pas comme ça aujourd'hui, hein, parce qu'il y aurait un joli paquet d'esclaves. Hein. Quand vous regardez le surendettement des gens, eh bien, je pense qu'on serait presque tous l'esclave des uns et des autres. Hein. Mais en Israël, il y avait une loi en Israël qui disait que l'homme devait retrouver sa liberté après une période de 7 ans, on appelait ça l'année du jubilé. Mais il arrivait parfois qu'il y avait des esclaves qui servaient des maîtres qui leur manifestaient tellement de bonté, tellement d'amour et tellement d'attention que ceux-ci ne voulaient pas devenir des hommes libres. Si l'homme, voici Exode chapitre 21, versets 5 et 6. Exode chapitre 5, verset 21, pardon, si vous avez vos Bibles, verset 21, verset 5 à 6. Si l'homme déclarait aimer son maître, sa femme et ses enfants, et qu'il ne désirait pas les quitter pour être libre, le maître prenait Dieu à témoin. Il plaçait l'homme contre la porte ou contre le montant de la porte de sa maison, et là, il lui perçait l'oreille au moyen d'un poinçon. À partir de ce moment-là, l'homme était pour toujours à son service. Et c'est exactement ce que Paul sous-entend ici. Il aimait son maître. Il savait que son maître Jésus l'aimait. Il avait alors décidé que dorénavant, il allait se donner de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et ce faisant, Paul suivait l'exemple de son Sauveur, qui n'était pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Frères et sœurs, Jésus est notre modèle. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il aurait pu venir sur la terre, il aurait pu s'asseoir sur le trône en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paraissant comme un simple homme. Paul dit, « J'aime mon maître, je me soumets donc à mon maître, le Seigneur Jésus-Christ. » Et il y en a peut-être ce matin qui se disent, « je ne veux pas être l'esclave de personne. » Malheureusement, vous l'êtes déjà, parce que tout le monde est esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Et si vous êtes esclave du péché, eh bien, vous êtes dans le pire esclavage qui soit. Celui qui n'est pas sauvé dit « je veux être libre », et tandis qu'il cherche la liberté, il se retrouve dans le pire esclavage qui soit celui du péché. Jésus a dit, tourne avec moi dans Jean chapitre 8, je suis dans Jean, hein, dans mes méditations cette semaine, et ça m'a vraiment frappé. Avant que je m'évanouisse... Verset 31. Jésus dit alors aux Juifs, « Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement... » Non, hein? C'est pas ce qu'il dit. Hein? Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes enfants. Ainsi, vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous rendra libre. Verset 34. La première réponse qu'on donne à Jésus, c'est qu'on est des descendants d'Abraham. Mais regardez au verset 34. Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si le fils vous libère, vous serez vraiment libre. Si tu pratiques une religion, tu vas prendre des résolutions pour essayer de tenir ton bout, mais tôt ou tard, tu vas tomber parce que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Si le fils vous libère, vous serez, verset 36, vous serez alors vraiment libre. Verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Verset 51, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11. Vous savez, si vous faites le lien avec le verset 51 du chapitre 8 avec le verset 11 de Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en Jésus le démontre dans la pratique en obéissant à sa parole. C'est synonyme. Puisqu'ici, il dit, « Celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. » Et il dit dans chapitre 11, « Celui qui croit en moi, eh bien, vivra toujours, ne mourra pas non plus, parce que je suis la résurrection et la vie. » Donc, c'est facile de dire que je crois en Jésus. Je ne sais pas de vous condamner. J'essaie simplement de mettre les mots, de donner la signification que les mots doivent avoir. Hein. Frères et sœurs, il y en a combien qui disent qu'ils croient en Jésus? Il y a combien d'Américains qui disent que Dieu te bénisse? Il y a combien d'Américains qui disent, « Moi, je crois en Dieu. » Qui ne sont pas sauvés, qui sont comme le diable, hein, qui croit en Dieu, mais qui n'est pas sauvé. Et Jacques nous dit que le diable, il croit, mais il craint. Il craint. Pourquoi il craint le diable? Parce qu'il sait qu'il ne s'est jamais repenti et il sait qu'il y a un jugement qui s'en vient sur lui. Hein. Il sait qu'il y a un jugement dernier qui va tomber sur lui. Hein. Il ne s'est jamais repenti. Il y a des gens qui croient en Dieu, c'est souvent des portes ouvertes pour avoir un travail aux États-Unis. C'est souvent une porte ouverte pour avoir des faveurs de différentes personnes aux États-Unis. Mais quand vous parlez avec les gens, eh bien, les gens, ils n'ont pas cette certitude. Ils ne savent pas où ils vont aller. Ils n'ont pas cette certitude de savoir où ils vont aller le jour où ils vont mourir. Et ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Et ça m'a marqué cette semaine en lisant surtout le chapitre 8, ce que Jésus dit, « Celui qui obéit à mes paroles, eh bien, moi, je pourrais rajouter, ne mourra jamais parce que c'est celui qui manifeste clairement qu'il croit en moi, qui a placé sa confiance en moi. » Amen. La liberté que je reçois en croyant au Seigneur Jésus consiste à être capable de vivre comme le Seigneur Jésus le demande et d'obéir à sa parole. Paul dit, celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. Allez dans la première épître de Jean. On va terminer avec ça. L'épître de Jean, la première épître de Jean, il faut la lire en français courant. En français courant, c'est un bijou, la traduction en français courant. Verset 2, on va lire les versets 1 à 6. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 6. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. C'est extraordinaire, hein? Si Jean n'avait pas la certitude qu'un chrétien ne pouvait pas pécher, il n'aurait pas écrit ça, quoi. Ou c'est un imbécile, quoi. Il est trop vieux, quoi. Mes frères, mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, donc ce n'est pas une habitude pour Jean quand les chrétiens pêchent, c'est l'exception. Mais s'il vous arrive, si jamais il vous arrive de pécher, c'est ce qu'il veut dire, hein? Nous avons un avocat auprès du Père. Il y a quelqu'un qui est là pour prendre notre défense en haut et qui plaide notre cause. Et qui dit à chaque fois, « Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, Père. J'ai versé mon sang pour lui, il l'a reconnu. » Il dit, « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi de ceux de tous les hommes. » Ça, là, tantôt je vous ai dit que j'étais calviniste. Hein? Voilà un point pourquoi je ne suis pas calviniste dans les cinq points. Chapitre 1. Regardez le verset. Je ne sais pas si en Louis II c'est clair, mais en français courant c'est clair. Le verset 2. Jésus n'est pas mort seulement pour les élus, il est mort pour tous. Regardez ce qu'il dit. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Sois pardonné. Ah, c'est nous, c'est les élus. Hein, voilà, les élus. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Et pas seulement les autres. Et pas seulement les nôtres. Mais aussi ceux de tous les hommes. Donc, Christ est mort pour tous les hommes soient sauvés. Et Pierre le confirme en disant que Dieu veut que tous parviennent à la repentance et au salut. Maintenant, je vais continuer. Regardez ce qu'il dit. Si nous obéissons au commandement de Dieu, verset 3, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Il nous donne des indices ici. Si nous obéissons au commandement, Jésus dit, celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme, je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur, il n'y a point de vérité en lui, dit Jésus. C'est une bonne gifle, ça, hein? Est-ce que vous croyez que Dieu qui est bon, Dieu qui nous aime, qui a sacrifié son Fils, nous demanderait quelque chose qui est impossible? Jamais, hein? Jamais. Notre problème, je vais vous dire ce qui arrive, c'est qu'on est sauvé par la foi et on essaye de ne plus pécher par nos propres forces. Alors que c'est impossible, on va toujours tomber. Le juste vivra par la foi dans tous les domaines de sa vie, y compris la sanctification. C'est en Jésus-Christ que je peux avoir la victoire sur le péché, pas dans mes propres forces en tant que chrétien. Parce que dans mes propres forces en tant que chrétien, ça demeure toujours selon la chair. C'est toujours en Jésus-Christ, en étant uni avec lui. J'ai combattu des péchés au début de ma vie chrétienne parce que j'essayais par mes propres forces. On ne m'avait pas enseigné ce principe-là. Il a été tenté en toutes choses et il a vaincu toutes les tentations. Il n'a jamais péché. Il habite en moi par son Saint-Esprit. Si je m'appuie sur lui, je peux affronter n'importe quelle tentation. C'est pas moi qui va la vaincre, c'est Jésus-Christ par son Esprit qui habite en moi qui va renverser cette tentation-là et qui va m'empêcher de tomber. Le problème, c'est qu'on se dit, je suis chrétien, j'ai la force. Nous avons aucune force, frère, c'est ça. Mais aucune force. La nature humaine, elle veut tellement reprendre rapidement ses droits et elle veut tellement essayer de nous séduire en disant, t'es capable, Jacques, t'es capable. Ça fait 30 ans que t'es chrétien, Jacques. Ouais, ouais, vas-y, Jacques. Ça sous-entend quoi, ça? Tu n'as pas besoin du Seigneur Jésus pour résister à la tentation. Mon œil, je vais tomber. Et il y a des chrétiens toute leur vie, mais ils sont malheureux. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que tu remets toujours ton salut. Parce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, je suis sauvé. Mais, et une fois par semaine, une fois par mois, on vient devant le trône de la grâce de Dieu en disant, Seigneur, confirme mon salut, sauve-moi, Seigneur. Je recommets toujours les mêmes choses, Seigneur, et ainsi de suite. Regardez ce qu'il dit, Jean, ici. Moi, je trouve ça, c'est encourageant. Hein? Je trouve pas que c'est décourageant, ce qu'il écrit. Hein? Regardez ce qu'il dit. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme, je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur, il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Voici comment nous savons que nous sommes unis à Dieu. Voici comment nous savons que nous avons vraiment fait cette expérience de la nouvelle naissance. Celui qui déclare être uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Est-ce que Dieu est en train de demander quelque chose d'impossible à travers l'apôtre Jean? Non, hein? Celui qui dit appartenir à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. C'est pas moi qui le dis, c'est pas votre pasteur. Je cite les Écritures. C'est extraordinaire. Je ne vous dis pas que vous pouvez passer une vie sans jamais pécher. Ce n'est pas ce que j'en dis ici. Mais il peut arriver, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Si vous péchez, pas de problème. Vous avez un avocat qui vous représente auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. Il plaide votre cause, pourquoi? Parce qu'il est mort pour vos péchés. Vous avez reconnu qu'il était mort pour vos péchés. Il a versé son sang pour vous. Il n'y a aucun problème. Mais il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Extraordinaire, hein? Alors, le problème, quand on ne vit pas la vie chrétienne comme Dieu nous le demande, le problème, il n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté, frères et sœurs. Et on a besoin de se remettre en question là-dessus. Il est de notre côté. Avons-nous, comme l'apôtre Paul a fait, renoncé à tous nos droits? La liberté que je reçois en croyant au Seigneur Jésus-Christ consiste à être capable de vivre comme le Seigneur Jésus le demande et d'obéir à sa parole. Jésus a dit, « Celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. » Et lorsque vous saisissez cela, il y a tellement de choses qui deviennent claires dans votre cœur et dans votre esprit. Être esclave du Seigneur Jésus, cela veut dire que ce qu'il veut est maintenant ce que je veux. C'est ça, être esclave du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'il veut à la place de ce que je veux, mais c'est moi qui ajuste ce que je veux à ce qu'il veut. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Et je suis capable de le faire, d'y arriver, parce que l'Esprit de Christ habite en moi. Et frères et sœurs, on parlera pas de théologie, mais Jésus-Christ, en tant qu'homme à 100%, il a pu résister au péché parce que le même Esprit qui habite en vous habitait dans son cœur. Hein? Sinon, il faut arrêter de jouer. Oui, mais il était 100% Dieu. Mais alors, les dés sont pipés. Hein? Les dés sont pipés d'avance, hein, depuis toute éternité. C'est que des gens vont devenir sur la terre, ils savaient qu'ils ne pêcheraient pas, ils savaient qu'ils passaient à travers n'importe quoi. Alors, il va nous demander, nous, de traverser des choses que lui n'aurait pas été capable de faire ou aurait été capable de faire, mais sachant que nous ne sommes pas capables de le faire. C'est clair, hein? Non, c'est pas clair? Voilà. Bon, on a un Dieu, écoutez, on a un Dieu qui est grand, on a un Dieu qui est bon. Et pourquoi pas, de l'année 2017, prendre la décision? La semaine passée, on s'est posé des questions par rapport à 2016, par rapport à 2017. Mais pourquoi pas essayer de monter... Pas la Santa, c'était la Santa, merci, Santa Scala, mais monter une marche de l'escalier de Dieu et de dire, spirituellement, là, je suis rendu là. Et cette année, Seigneur, avec l'aide, avec ton aide et dans ta grâce, monter une marche d'escalier. Monter une marche d'escalier. Et Seigneur, cette année, eh bien, je prends la résolution, je prends la décision de non seulement lire l'Épître aux Romains, mais de méditer l'Épître aux Romains. Et que quand j'arriverai au bout de cette épître, que je ne me pose plus jamais la question à savoir si je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé. Et que quand j'arriverai au bout de l'épître aux Romains, eh bien, tu auras réussi à me convaincre, Seigneur, à travers cette parole, que je devais renoncer à moi-même, que je devais renoncer à tous mes droits et devenir l'esclave de Jésus-Christ. Non pas ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. C'est ce que je voudrais mettre en application. Et on a un beau modèle devant nous ce matin. On a l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui a eu comme modèle le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous remarqué ce que le Seigneur... Allez dans Actes, et je termine avec ça. Hein. Dans Actes. Parce que c'est deux questions que je vais vous poser avant de terminer. Au chapitre 9 du livre des Actes, lorsque Paul est sur le chemin de Damas, il pose une question au Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et voilà une question que j'aimerais vous laisser en terminant ce message ce matin. Qui es-tu, Seigneur, pour t'être intéressé à moi? Qui es-tu, Seigneur, pour faire de moi ton enfant? Qui es-tu, Seigneur, pour vouloir faire de moi ton serviteur? Qui es-tu, Seigneur, pour vouloir te glorifier à travers moi? Qui es-tu, Seigneur? Un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Parce qu'il ne nous doit absolument rien. Et quand on comprend ce principe, eh bien, on peut louer le Seigneur en toute liberté. Seigneur, c'est moi qui te dois tout. C'est moi qui est en dette envers toi pour toute l'éternité. Tu ne demeurais rien, Seigneur. Et je veux te remercier parce que depuis toute éternité, j'étais dans tes pensées. Depuis toute éternité, tu avais prévu un plan merveilleux pour me sauver. Et Seigneur, maintenant, je veux renoncer à moi-même, Seigneur. Je veux renoncer à mes droits. Je veux que ce soit celle de Jésus-Christ qui dirige, qui règne dans ma vie. Seigneur, je te demande de me donner les capacités en Jésus-Christ de pouvoir justement monter cette marche cette année. Vous savez là où vous êtes, hein? Et là, je ne suis pas en train de me mettre au-dessus de vous, même si je suis un peu plus élevé que vous sur l'estrade. Moi, je sais ce que je vis. Je sais que j'en suis rendu avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais ce qui doit être travaillé encore dans ma vie. Je sais aussi ce à quoi je dois renoncer complètement dans ma vie. Mais vous prenez le temps de vous examiner pour savoir où vous en êtes rendu avec le Seigneur, pour savoir ce à quoi vous devez renoncer en 2017 pour voir Dieu se glorifier dans vos vies. C'est le but de Dieu en 2017. Est-ce que vous croyez à cela? Oui. Oui, c'est important. Vous n'étiez pas tous là dimanche passé, mais j'ai dit que j'ai expliqué pourquoi j'étais contre des pétitions pour qu'on empêche de construire des mosquées en Belgique. On ne combat pas une idée en signant des pétitions. On combat des idées, une idée, par une autre idée. On combat l'islam en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ. Ça va empêcher les mosquées de grandir, puis ça va permettre à d'autres églises de grossir. Et ça va permettre à d'autres églises de voir le jour. Si Jésus avait eu cette mentalité, eh bien, il aurait dit à son Père, « Rappelle-moi tout de suite, c'est impossible de faire quoi que ce soit ici. Le monde est complètement fou, complètement religieux. Je sais d'avance qu'ils vont me rejeter. » Tu sais, il faut se mettre dans la peau de Jésus, hein? Il faut se mettre dans la peau de Paul, hein? Vous voyez ces Arabes à la télévision, là, qui ont la bave à la bouche, là, puis qui ont des bâtons, puis des épées, puis des armes dans les mains, puis qui crient « Tue-le, tue-le, tue-le ». Vous imaginez, là, écoutez bien, le sang des Arabes, hein, c'est sémite, hein, les Arabes. Hein? C'est comme les Hébreux, hein? Isaac, Ismaël, hein? Imaginez-vous que quand ça s'énervait devant Paul, c'est exactement ce que Paul vivait, hein? Quand le chef des Romains est obligé de le prendre, de le sortir là, de force pour le rentrer dans la prison de force, de peur qu'il se fasse tuer, là, vous imaginez cette foule qu'il y avait là, hein, les Juifs, ils ont un sang chaud, c'est des gens qui ont du sang chaud, ça tourne au quart de tour. Hein. Et nous, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, hein, mais quand on a simplement l'occasion de témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies, mais déjà c'est extraordinaire ce que Dieu a accompli à travers nous, quoi. C'est ce que le Seigneur nous demande à chacun. C'est notre travail. C'est le service à lequel nous sommes appelés. Être des serviteurs. Mais d'abord, des esclaves. Se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.